Le passage de l'Écriture qui nous est proposé aujourd'hui par la Ligue pour la lecture de la Bible se trouve dans le chapitre 21 du livre des Nombres, le quatrième livre de la Bible. Livre des Nombres, chapitre 21, je lirai à partir du verset 4. Si notre Dieu, nous venons de te le dire, te demandons que l'Esprit de vérité nous éclaire, nous conduise, transforme nos vies, nous remplisse de ta grâce, de ton amour, de ta vérité. C'est là notre prière. Amen. Je lis donc à partir du verset 4. Les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux, pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple s'impatienta, et ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse, en disant « Pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents venimeux qui les mordirent, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Maintenant veuille implorer l'Éternel pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria donc pour le peuple. Le Seigneur lui répondit, « Fais-toi un serpent, fabrique-toi un serpent, et fixe-le en haut d'une perche. Celui qui aura été mordu et qui regardera le serpent aura la vie sauve. » Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Ceux qui parmi nous ont pratiqué le scoutisme ou la randonnée se sont probablement un jour ou l'autre, peut-être même plus régulièrement, posé la fameuse question « Dans la trousse de secours, faut-il prévoir quelque chose contre les morsures de serpents ?» Et que faut-il faire en cas de morsure? Sucer ou ne pas sucer la plaie? Faire couler le sang en élargissant la plaie ou pas? Poser un garrot? Quand j'étais enfant, ma mère, qui était infirmière, emportait chaque été pour les vacances une petite dose de sérum antivenimeux de l'Institut Pasteur. Une petite dose dont la date était régulièrement dépassée et qui, heureusement, n'a jamais eu besoin de servir, malgré les quelques vipères que nous avons rencontrées au cours de nos promenades. Avec ce récit du livre des Nombres, nous nous trouvons dans une situation qui, celle-là, est vraiment dramatique. Et en présence d'un remède, si on peut dire, un remède qui est tout à fait inattendu. Un serpent de métal qu'on regarde pour être guéri de la morsure fatale. Remède très surprenant et qui pourtant, en fait, nous est familier. Parce que ce serpent, nous le voyons souvent. Nous le voyons sur le caducée, sur l'insigne des médecins, sur l'insigne des infirmières, des pharmaciens, des vétérinaires et peut-être d'autres encore. Il y a tout le corps médical qui y passe. Le récit se situe à la fin de la période de 40 ans dans le désert et il s'inscrit dans une longue série de plaintes et de récriminations du peuple contre Moïse et contre Dieu. Une série qui commence dès les premières étapes de la traversée du désert et qui ne va s'achever qu'avec les toutes dernières étapes. Alors on peut compter, ça peut se discuter, mais on peut compter, je pense, 7 épisodes successifs. Et ces plaintes sont généralement posées par un problème qui est vraiment réel, qui est grave. Eau non potable, à Mara. Pas de nourriture dans le désert de Sin. Pas d'eau, à Réphidim. Pas de viande. Encore le manque d'eau à Meriba. Donc des problèmes réels, mais le problème réel donne lieu à des plaintes qui ne sont pas seulement l'expression d'une détresse bien compréhensible, mais qui sont de virulents reproches adressés à Moïse et à travers lui à Dieu. Ah, si seulement nous étions morts en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous avions bien assez à manger. C'est pour faire mourir de faim cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans ce désert. Et puis un peu plus tard, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour nous faire mourir, moi, mes enfants, mes troupeaux, de soif? Le mot vient tout à la fin de la phrase. Alors on sent bien la détresse de gens qui n'ont rien à manger ou rien à boire, mais on peut aussi remarquer comment cette détresse, si compréhensible, cette détresse se donne du nerf, se donne du corps, s'amplifie en se fixant sur un responsable d'où vient tout le mal. Et il râle. C'est ta faute. On n'en serait pas là si on était resté en Égypte. Et ainsi, la détresse se transforme en colère, en violence. Violence verbale d'abord, et puis peut-être aussi violence tout court. Moïse, dans un autre épisode, se voit déjà lynché par la foule. Encore un peu, ils vont me lapider. Dans le récit que nous venons de lire, c'est encore la même accusation qu'on retrouve. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain ni eau. Alors en fait, la situation est quand même moins grave que dans d'autres occasions. Le récit ne nous dit pas qu'ils ont vraiment manqué d'eau. Il explique que les Israélites, parvenus aux abords des terres habitées d'Édom, ont dû contourner ces terres parce que les Édomites leur refusaient le passage. Alors voyez, après 40 années dans le désert, les voici à la lisière de terres habitées, cultivées, des sources, des forêts. Et voilà qu'ils doivent encore entreprendre un grand détour dans le désert, des dizaines et des dizaines de kilomètres, d'abord en direction du sud, alors qu'ils se dirigeaient et devaient se diriger vers le nord. Or, la patience du peuple est à bout, et c'est sur la nourriture donnée par Dieu, la manne, que se reporte leur exaspération. Notre âme est excédée de cette minable nourriture. Faut croire qu'à l'époque, les gens sont encore polis, même lorsqu'ils sont très fâchés, parce que je vous laisse deviner ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Un ras-le-bol de cette bouffe. Lorsqu'on considère dans son ensemble la série des 7 épisodes où les Israélites ont râlé contre Dieu, on constate que les 3 premières fois, Dieu ne leur adresse aucun reproche et ne leur inflige aucune punition. Les Israélites râlent et Dieu résout le problème. Par un miracle, il purifie l'eau non potable, il donne à manger la manne, le pain du ciel, que les Israélites recevront chaque matin durant toute la traversée du désert. Il dit à Moïse de frapper le rocher pour qu'il en sorte de l'eau, comme si Dieu ne faisait pas attention à la mauvaise humeur des gens. Très gentiment, Dieu répond à la détresse sans se formaliser de la façon dont cette détresse s'exprime. Vous râlez, pas de problème. Dieu s'occupe de la solution. Mais à partir de la quatrième fois, les choses vont sérieusement se compliquer. Parce que Dieu ne va plus laisser passer les récriminations. Dieu va sévir. Incendie qui ravage une partie du camp. Épidémie qui frappe une partie du peuple. Et ici, c'est la dernière fois, des serpents venimeux. Alors, ce changement d'attitude de Dieu peut s'expliquer de différentes manières. On peut évoquer la patience de Dieu, qui a supporté par trois fois les récriminations du peuple. Une patience remarquable, mais qui a ses limites. Qui a ses limites dans l'intérêt de Dieu et dans notre propre intérêt. Parce qu'il serait vraiment malsain que nous nous imaginions que Dieu n'est là que pour nous écouter râler et pour répondre à nos besoins, à des besoins ou même à des détresses que nous exprimons d'une manière aussi désagréable. Dieu n'est pas là pour nous encourager à râler. Nous le faisons déjà très bien nous-mêmes. Dieu n'est pas le Dieu des râleurs. On peut aussi remarquer que Dieu tient compte de la détresse réelle et que Dieu répond bien plus volontiers à une détresse réelle, même si parfois elle s'exprime d'une manière inconvenante, Dieu répond bien plus volontiers à une détresse réelle qu'à des plaintes qui n'ont pas de motif sérieux ou urgent. À partir de la quatrième plainte, les Israélites se plaignent parce qu'ils sont dans le désert, et parce que dans le désert, la vie est difficile, ça c'est vrai. Mais ils ne se trouvent plus, comme les trois premières fois, dans une situation d'urgence absolue. Sauf une fois, la sixième fois, ils n'ont plus d'eau à boire. Et là, Dieu ne sévit pas contre eux. Dieu leur donne à boire. Et s'il y a des gens qui sont punis, c'est Moïse et Aaron. Ils sont sanctionnés parce qu'ils ont manqué de confiance en Dieu et ils ont manqué de dignité dans leur façon de réagir aux plaintes du peuple. Alors les Israélites ne risquent plus de mourir de faim puisque chaque matin, ils reçoivent la manne. Alors ils vont se plaindre de ne pas avoir de viande. Et ce qui devient très grave ici, dans ce dernier épisode, ils vont jusqu'à se plaindre de la nourriture miraculeuse elle-même, celle qui leur a permis de survivre dans le désert. Ils vont jusqu'à la mépriser, jusqu'à qualifier le don de Dieu de nourriture minable, se plaindre d'en être lassés, dégoûtés, alors que c'est précisément la fidélité de Dieu qui les a pourvus chaque jour. Le donateur, lui, ne s'est pas lassé. Il n'a pas manqué un seul jour. Et c'est le bénéficiaire qui se plaint d'en avoir tous les jours. Quelle ingratitude. Ces deux explications que je viens d'évoquer, la patience de Dieu, les motifs graves ou non de nos plaintes, nous voyons bien comment elles peuvent nous être utiles pour mieux comprendre les choses et aussi pour nous corriger dans notre vie. Une vie qui n'est pas exempte, jamais exempte de difficultés, de contrariétés, de routines lassantes. Et tout cela, nous devons apprendre à lui supporter. Et une vie dans laquelle nous trouvons aussi parfois dans de grandes détresses, où nous pouvons toujours implorer le secours de Dieu. La punition infligée par Dieu au peuple râleur est grave en elle-même et elle a aussi certainement une portée symbolique. Râler comme le font les Israélites, en fait, c'est mordre en fait. C'est prononcer des paroles qui agressent, qui mordent, qui blessent. Et en infligeant au peuple râleur des morsures de serpent, Dieu leur fait tragiquement et mortellement sentir la nature de leur faute et la gravité de leur faute. Et c'est d'ailleurs ce qui se produit. Le peuple vient trouver Moïse pour lui dire « Nous avons péché. Nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi. Prie le Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Alors cette succession des faits, telle que la Bible nous la rapporte et nous l'explique, c'est Dieu qui envoie contre le peuple des serpents, et c'est ce fléau envoyé par Dieu qui amène les Israélites à reconnaître leurs fautes et à en demander pardon. Alors cette présentation des faits doit nous rendre attentifs à un aspect de l'action de Dieu. Un aspect qu'on n'aime pas trop, peut-être même pas du tout, évoqué de nos jours. On n'aime pas ça. Et on a peur que ça donne de Dieu une image négative, comme si Dieu avait besoin de notre censure pour maintenir sa réputation. Pourtant, c'est bien ce que dit le texte. Et ça doit nous inviter, nous inciter à réfléchir. Et même plus que cela, cela doit nous servir d'avertissement. Comme Paul l'écrivait aux Corinthiens, « Ne maugréons pas comme certains le firent. » Et juste avant, il a mentionné ceux qui ont été tués par les serpents, et il conclut « Tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir. » Ah, l'avertissement choque. Mais il y a des chocs qui sont nécessaires et qui se révèlent salutaires. Et c'est bien ce que nous voyons dans le récit. En réponse à la repentance du peuple et à la prière de Moïse, Dieu va donner un moyen de guérison. Alors que le peuple demandait que Dieu éloigne les serpents, Dieu va faire bien mieux. Il va donner à tous ceux qui ont été mordus le moyen de guérir de la blessure mortelle qui leur a été infligée. Et c'est d'ailleurs une constante dans tous ces épisodes de plainte. Quand la vie du peuple est menacée par manque d'eau ou de nourriture, nous l'avons vu, Dieu répond toujours aux besoins vitaux. Et quand Dieu punit, incendie, épidémie, quand Dieu punit, il répond aussi à la prière de Moïse pour limiter l'extension de la plaie. Ainsi, Dieu se révèle dans tous ces épisodes à la fois comme un Dieu qui pourvoit aux besoins vitaux, comme un Dieu qui punit et qui pardonne. Et les deux sont inséparables. En refusant de voir ou en refusant d'entendre parler d'un Dieu qui punit, nous risquons bien de ne pas comprendre ce qu'est le pardon de Dieu, ce qu'est l'amour de Dieu, et comment nous pouvons bénéficier de son pardon. Le moyen donné par Dieu pour offrir la guérison est un moyen très particulier. Non, évidemment, il ne s'agit pas d'un remède. C'est miraculeusement, c'est en réponse à la foi que Dieu guérit celui qui regarde vers le symbole qui a été dressé par Moïse. Mais le symbole a de quoi surprendre, parce que c'est la ce n'est pas la représentation de la guérison qui est offerte. Un homme guéri. L'image d'un remède ou le symbole d'une force qui pourrait vaincre le mal. Une image positive, une image rassurante. C'est le mal lui-même qui est dressé ainsi en effigie, et celui qui en est l'agent, le serpent. Alors on pourrait peut-être aussi imaginer qu'on dresse au bout d'une perche un serpent mort pour montrer que l'ennemi ne peut plus nuire. Regardez bien le serpent, il est mort. Il est vrai qu'un serpent de métal est nettement moins dangereux qu'un serpent vivant. Et ce serpent pendu au haut de sa perche pourrait signifier que le mal est vaincu, qu'il a perdu sa force, qu'il a perdu sa capacité de tuer. Mais au stade du récit, on en reste quand même encore à s'interroger sur le sens du symbole. Le métal dont est fait le serpent, du cuivre ou du bronze, apparaît fait exprès pour un serpent, parce que les deux mots sont liés en hébreu. Serpent se dit nachash et bronze se dit nechoshet. C'est un peu comme si on disait en français un serpent de serpentine. Encore une façon de souligner que c'est bien la cause du mal qui est dressée ainsi en effigie. Donc on en reste encore à s'interroger sur le sens du symbole, et à ces interrogations, on trouvera quelques siècles plus tard une bien mauvaise réponse. À l'époque des rois d'Israël, le serpent de bronze est devenu l'objet d'un culte. On lui a donné un nom. On l'appelle Nehushtan. On lui offre des parfums, comme à Dieu. Si bien que le roi Ézéchias, qui a entrepris de purifier le temple de toutes les idoles, est obligé de le détruire. Fin du serpent de bronze. Fin de l'objet, mais pas fin du symbole. Jésus, dans son entretien avec Nicodème, reprend le symbole du serpent dressé par Moïse et il le relie à sa propre mort sur la croix. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé pour que toute personne qui croit en lui reçoivent la vie éternelle. Et c'est la phrase qui précède le fameux verset que l'on cite si souvent, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui reçoive la vie éternelle. » Qu'est-ce que la croix? Sinon le symbole du mal, le déchaînement du mal contre l'envoyé de Dieu, le mal dans toute sa noirceur, dans son injustice, sa violence. Et c'est pourtant là que s'opère le salut de Dieu, la victoire de Dieu sur le mal. Le mal n'est pas nié. Le mal ne disparaît pas comme par enchantement. Il est là dans toute son horreur. Ce mal qui fait de nous des gens qui mordent et qui sont mordus et qui en meurent. Il faut regarder le serpent pour être guéri. Il faut regarder la croix pour être sauvé. Réalité du mal, nocivité du mal, sévérité de Dieu contre le mal, tout se trouve dans la croix, pour que nous puissions si nous croyons, recevoir le pardon de Dieu. C'est l'invitation que j'ai la belle mission de transmettre. De transmettre à ceux qui, parmi nous, ce matin, n'auraient pas encore regardé vers le Christ crucifié pour être sauvés. Nous sommes tous mordus par le mal. Et ce mal, vous allez en mourir. Vous êtes en train d'en mourir. Si vous ne regardez pas avec foi vers Jésus-Christ pour demander et pour recevoir le pardon de Dieu et l'assurance de la vie éternelle. Un seul regard de foi peut nous faire passer de la mort à la vie. Allez-vous emporter dans votre trousse de secours quelque chose contre les mordures de serpents ? Là, je me garderai bien de vous donner des conseils à la matière. Adressez-vous aux personnes compétentes. Vous devriez vous méfier des conseils que je donne en matière médicale parce que le seul examen que j'ai raté dans ma vie, c'est le diplôme de secouriste. Donc, cherchez les conseils ailleurs. Mais pour la randonnée de la vie, je ne peux que vous recommander, contre les morsures du serpent, le pardon de Dieu le Père, la confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur, et la volonté de corriger nos défauts avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà ce qui ne doit jamais nous manquer dans notre trousse de secours. Amen.